programme.
Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 22 janvier 2024, pour commencer le sommaire. Le président élu du Libéria, Joseph Boakai, a prêté serment à Monrovia pour un mandat de 6 ans. Mise en garde des États-Unis au Niger dans ses relations avec la Russie. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken débute ce lundi une tournée d'une semaine en Afrique. Le Cameroun a lancé la première campagne au monde de vaccination systématique et à grande échelle contre le paludisme.
C'est pour protéger les enfants les plus vulnérables. Donc, on vise essentiellement les enfants de 6 à 24 mois dans le pays.
Plus de détails dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump espère sceller dès mardi dans le New Hampshire la course à l'investiture républicaine après le retrait du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Ne manquez pas la page spéciale de ce journal consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire, Bagassi Koura et Yacouba Ouédraogo. Le journal de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire pour commencer cette édition. Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Nigeria, Ghana, Mozambique et Cap-Vert, Égypte sont les affiches de la troisième et dernière journée de la phase de poule dans les groupes A et B. Les dernières nouvelles de la compétition que nous présente depuis Abidjan, nos envoyés spéciaux Bagassi Koura et Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. En dehors de ces rencontres, la poule B joue aussi ses derniers matchs de la phase de groupe. Déjà qualifié pour les huitièmes avec 6 points, le Cap-Vert fait face à l'Égypte, deuxième avec 2 points, à 20h temps universel. Les pharaons doivent nécessairement gagner pour poursuivre leur aventure dans cette CAN et ils devront le faire sans leur attaquant vedette Mohamed Salah, blessé et qui devra rejoindre Liverpool pour se soigner selon son club anglais, la Fédération égyptienne de football. À la même heure, le Ghana et le Mozambique, 1 point chacun, s'affrontent. Pour rappel, seuls les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour les 8e de finale, ainsi que les 4 meilleurs 3e de l'ensemble des groupes réunis. Hier se sont joués les derniers matchs de la 2e journée. Le Maroc devra encore attendre à la faveur des derniers matchs de la 2e journée de la phase de poule. Les Lions de l'Atlas ont manqué l'occasion de se qualifier directement pour les 8e de finale. Ils ont été accrochés 1-0 à San Pedro par les Léopards de la RDC. Dans le groupe F se place le compte-rendu de notre envoyé spécial Amine Birouk.
Les joueurs du Maroc et de la RDC peuvent nourrir des regrets ce dimanche après le match nul entre les deux sélections sur le score 1-0 à San Pedro. Les Lions de l'Atlas, pour n'avoir pas su garder l'avantage obtenu dès la 4e minute par le latéral droit Sharaf Hakimi, qui avait repris du plat du pied un corner botté du côté gauche par Hakim Ziyech. Les Léopards, pour avoir laissé filer leur proie après l'égalisation obtenue à la 76e minute par Silas Katompa. Entre-temps, les 4e du Mondial 2022 au Qatar ont idéalement entamé le match. Après l'ouverture du score, ils s'étaient même procuré de nombreuses situations pour doubler la mise. Mais petit à petit, les Congolais ont pris l'ascendant et ont même manqué un pénalty avant la mi-temps par Cédric Bakambu à la 42e minute. La frappe trop croisée de l'attaquant de Galatasaray touchant le poteau de Yacine Bounou. Après la pause, les représentants du royaume chérifien subissaient les conditions du match. Essorés par une chaleur et une humidité étouffantes, ils finissaient par craquer, laissant leurs rivaux prendre le jeu à leur compte et ainsi s'emparer du point du nul. Un résultat qui permet aux deux sélections de garder leur destin en main dans ce groupe F. Les Paulins de Regragui pour finir premier et ceux de Sabre pour se qualifier aisément en 8e de finale. Cela dépendra normalement des résultats des matchs Zambie-Maroc et RDC-Tanzanie prévus mercredi prochain à San Pedro et Korogo. Mais ceci est une autre histoire. Depuis San Pedro, Amine Birouk pour la VO Afrique.
Malgré ce nul, le Maroc conserve la première place du groupe F devant la RDC deuxième avec 2 points, tout comme la Zambie après le nul 1-0 de Chipolo Polo face aux Tanzaniens. Pour le coach de la RDC, Sébastien Desabre, ce match nul face au Maroc est bon à prendre.
Bon, c'est déjà un sentiment de satisfaction d'avoir pu tenir tête à la meilleure équipe d'Afrique. Sentiment un peu de regret par rapport au but qu'on prend tôt dans la rencontre. Après, forcément, je suis très fier de mes joueurs, de la débauche d'énergie qu'ils ont mis, mais surtout de la qualité dans laquelle ils ont répondu après ce but très très tôt.
Sébastien Desabres, sélectionneur de la RDC au micro d'Amin Birouk, notre envoyé spécial à San Pedro. Belle opération pour les Bafana de l'Afrique du Sud qui ont pulvérisé la Namibie 4-0, dont un doublé de Temba Nzoane. Dans le groupe E, le Mali reste en tête de cette poule, suivi par l'Afrique du Sud qui devance la Namibie au goal à virage. La Tunisie ferme la marche avec un seul point pris en deux sorties. À l'issue des matchs de la deuxième journée, seuls deux pays ont arraché deux victoires pour s'assurer leur place en huitième, le surprenant Cap Vert et le champion en titre, le Sénégal. Pour Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, ancien international ivoirien, il y a un nivellement des équipes vers le haut.
Le niveau est très élevé parce que à ce stade de la compétition, il n'y a plus de petites équipes en griffe. Les équipes inattendues ont été le Cap Vert, même l'équipe de Guinée-Bissau, qui est la plus petite nation du football, a démontré qu'il faut compter avec.
Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, ancien international ivoirien, vainqueur de la CAN 1992 avec la Côte d'Ivoire au Sénégal. C'est aussi l'avis d'Assalfo, le lead vocal du groupe Magic System, concepteur de l'hymne de la CAN. Il nous explique comment cette idée a germé.
C'était un gros challenge, donc il fallait trouver une composition qui diffère des autres hymnes, parce que ce qu'on avait remarqué, c'est que personne ne se souvient des hymnes de CAN passés. Et nous, on n'avait pas voulu que notre hymne soit oublié. C'est comme ça que je me suis mis à écrire les textes qui pouvaient parler de fraternité, d'amour, d'amitié, d'hospitalité. Et on a pu faire ça. Après, il fallait trouver aussi une manière d'associer d'autres acteurs africains qui pouvaient aussi permettre à travers d'autres langues de faire passer ce message. D'où Yemi Alade pour les anglophones et Mohamed Ramadan pour les arabophones. Donc on a réussi à faire passer le message dans toutes les langues.
Assalfo, lead vocal du groupe Magic System, concepteur de l'hymne de la CAN. Bagassi Koura, Yacouba Ouedraogo, Abidjan ou VOA Afrique.
Merci Bagassi Koura et Yacouba Ouedraogo, nos envoyés spéciaux que vous pouvez retrouver tous les jours dans les éditions du Monde aujourd'hui et sur notre site web voafrique.com. Au Libéria, le tout nouveau président Joseph Boakai, 79 ans, a prêté serment ce lundi à Monrovia pour un mandat de 6 ans. C'était lors d'une cérémonie où il est apparu affaibli par la chaleur et les circonstances. Le point avec Rosine Munezero.
Nous voyons des temps difficiles, nous voyons des dysfonctionnements, nous voyons de la corruption en haut lieu et en bas lieu. Et c'est dans ces conditions que nous sommes venus à la rescousse, a déclaré le président Joseph Boakai, qui a dû faire une pause et a terminé son discours assis alors que la chaleur était éprouvante. Il a insisté sur la nécessité de reconstruire les infrastructures, d'améliorer les services de base et de donner les mêmes chances de réussite à tous les Libériens. George Weah, qui l'avait battu en 2017 au second tour, a reconnu sa défaite avant l'officialisation de la victoire de Boakai, s'attirant des louanges internationales. Joseph Boakai entre en fonction alors que le pays ouest-africain, en quête de stabilité après des années de guerre civile et une épidémie d'Ebola, est confronté à la corruption et à un niveau élevé de pauvreté.
Le rapprochement entre les autorités militaires du Niger et la Fédération de Russie est suivi de près par les États-Unis, alors que le premier ministre nigérien de transition a récemment conduit une forte délégation à Moscou pour discuter notamment de partenariats militaires. Un rapprochement qui n'est pas vraiment du goût de Washington, qui dispose d'une importante base militaire au Niger. Les précisions avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Les États-Unis d'Amérique n'ont pas d'objection à ce que des pays diversifient leurs partenariats. Mais s'ils choisissent un pays comme la Russie, ce sera compliqué. Ce sont là les propos de la sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires africaines sur un média français. Elle réagissait au récent échange entre les autorités militaires de transition au Niger et des responsables de la Fédération de Russie. Des échanges qui d'ailleurs sont appuyés par des visites de part et d'autre, comme ce fut le cas il y a quelques jours avec une délégation nigérienne à Moscou, conduite par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen.
Sur le plan militaire, effectivement, il y a eu un accord stratégique qui avait été passé au Niger il y a quelques semaines, qui est confirmé ici même. Le Niger a souhaité que ce qui existait déjà par le passé avec la Fédération de la Russie soit renforcé. Depuis le 26 juillet, quand il y a eu le renversement du régime déchu, c'est quasiment tous les Nigériens qui ont demandé ce rapprochement, cet approfondissement de nos relations. Et donc, c'est bien aise que nous défendons aujourd'hui ce sentiment de tous les Nigériens. La Russie, qui n'a pas un passé colonialiste, est un pays approprié pour que nous puissions, évidemment, dans le cadre de cette ouverture, renforcer nos relations.
L'ambassadeur de la Russie au Niger ainsi que le vice-ministre de la Défense ont été reçus au mois d'octobre et de décembre de l'année 2023 par le chef de la transition, le général Abdrahmane Tchiani. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a débuté ce lundi une tournée d'une semaine en Afrique afin de maintenir l'influence des États-Unis sur ce continent. Cette tournée survient dans un contexte de forte concurrence entre Washington, Pékin et Moscou, et alors que l'instabilité au Sahel est préoccupante, John Lydon.
Nous commençons ce voyage au Cap-Vert car c'est littéralement la porte d'entrée de l'Afrique, a déclaré Antony Blinken à son arrivée à Praia. L'une des choses dont je suis très fier est le fait que grâce au Millennium Challenge Corporation, les États-Unis ont pu investir de manière significative dans la modernisation et l'amélioration de ce port. Le Cap-Vert est le seul pays au monde à avoir mené à bien deux projets dans le cadre du Millennium Challenge Corporation et s'engage dans un troisième qui va se concentrer sur la connectivité régionale, l'intégration et le renforcement des liens économiques entre les pays d'Afrique de l'Ouest. Après une rapide escale au Cap-Vert, Antony Blinken a rejoint la Côte d'Ivoire. Le compact du Millennium Challenge Corporation avec la Côte d'Ivoire d'une valeur de 536,7 millions de dollars comprend des projets dans les domaines du transport et de l'éducation ainsi que l'amélioration des systèmes d'entretien de ces infrastructures. Antony Blinken doit se rendre ensuite au Nigeria et en Angola.
Au Cameroun, une vingtaine d'élèves ont été blessés et transférés dans une formation sanitaire après une bousculade à l'entrée du lycée bilingue de Tougébé dans la capitale Yaoundé. Selon le préfet du département qui comprend la ville de Yaoundé, des élèves ont forcé le portail du lycée qui a été fermé avant l'exécution de l'hymne national marquant le début des classes chaque lundi. Des policiers appelés en renfort ont été pris à partie par des jeunes qui leur ont lancé des projectiles. Beaucoup de personnes n'ayant aucun lien avec l'établissement sont aussi responsables d'actes de vandalisme, a ajouté le préfet.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a livré ce lundi des combats acharnés contre le Hamas à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, alors que la pression internationale monte sur Israël pour préparer une issue à la guerre, incluant la création d'un État palestinien, dit Lidiko.
Israël doit accepter la solution à deux États pour garantir sa sécurité, ont souligné plusieurs ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne avant de rencontrer en tête-à-tête à Bruxelles leurs homologues israéliens et palestiniens. Sur le terrain, des témoins ont fait part de tirs d'artillerie nourris, de progressions de chars israéliens et d'affrontements près de l'université d'Al-Aqsa et de l'hôpital Nasser à Khan Younes. Selon le Hamas, qui accuse l'armée israélienne d'avoir visé 5 structures abritant 30 000 déplacés, des dizaines de personnes ont été tuées dans le secteur. L'armée israélienne dit avoir pris contrôle de postes de commandement du Hamas à Khan Younes. À la frontière entre Israël et le Liban, les échanges de tirs entre Tsahal et le Hezbollah ont fait 200 morts, dont 146 combattants au sud du Liban. Le conflit exacerbe les tensions dans la région. Les alliés du Hamas sont réunis autour de l'Iran au sein d'un axe de la résistance avec notamment le Hezbollah libanais et les rebelles yéménites houthis.
Israël doit accepter une solution à deux États pour mettre fin à la guerre et garantir sa sécurité, ont souligné des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne avant une réunion où ils ont rencontré séparément leurs homologues israéliens et palestiniens. Reçu lundi matin par les 27, le chef de la diplomatie israélienne a affirmé avoir fait le déplacement à Bruxelles pour s'assurer du soutien des Européens dans la guerre menée par son pays pour démanteler le Hamas et obtenir la libération des otages que l'organisation palestinienne retient encore. Son homologue palestinien Riyad al-Maliki, reçu dans l'après-midi, a en revanche insisté sur la nécessité d'obtenir au plus vite un cessez-le-feu à Gaza. Ici aux États-Unis, les yeux sont rivés demain, mardi, sur Donald Trump, favori pour remporter la primaire républicaine du New Hampshire. Après le caucus de l'Iowa, le New Hampshire donne traditionnellement le coup d'envoi des primaires pour désigner les deux candidats qui vont s'affronter pour la présidentielle en novembre prochain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a annoncé samedi une liste finale de 20 candidats retenus pour la présidentielle du 25 février. L'opposant emprisonné Ousmane Sonko et Karim Ouad, fils de l'ancien président, ont été exclus, ces derniers, en raison de sa double nationalité franco-sénégalaise. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar l'analyste Ibrahima Khan du bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa.
Pour Sonko, presque tout le monde s'y attendait parce que depuis près de 2 ans, il n'y avait que pour lui, pour toutes les actions avaient été menées pour l'éliminer de cette présidentielle. Et donc, tout le monde s'attendait à ce que Sonko ne puisse pas passer. Et je pense que son parti lui-même était tellement sûr de sa non-candidature qu'ils ont présenté d'autres candidatures qui, heureusement, ont passé. Parce que parmi les 20, il y a 3 qui sont plus ou moins proches de Sonko, dont le numéro 2 du parti PASTEF qui a été dissous. S'agissant de Karim Ouad, je pense que c'est vraiment une surprise et ce qu'on peut dire en ce moment précis, c'est qu'il est lui-même responsable de ce qui lui est arrivé. Il savait qu'il avait la double nationalité, il savait qu'il ne devait se prévaloir que d'une seule pour participer à l'élection présidentielle au Sénégal. Malheureusement, il a attendu pratiquement la fin du processus de présentation des candidatures pour acter sa renonciation à la nationalité française. Et le décret, je pense, est sorti après qu'il ait fait une déclaration sur l'honneur qu'il n'avait qu'une seule nationalité. Ça va perturber une partie du travail de son parti parce que ce sera maintenant pratiquement impossible pour le PDS de nommer une autre personne pour être le candidat du parti.
Quelle est la probabilité que la situation actuelle avec un candidat en prison comme Bassirou Diomaye Faye crée une surprise électorale au Sénégal? Y a-t-il des précédents historiques de situations similaires dans le pays?
Non, vous savez, cette élection est vraiment unique dans les annales de l'histoire politique du Sénégal. Pas seulement parce que c'est la première fois qu'on a un candidat à l'élection présidentielle qui est en prison, et le code électoral n'a pas envisagé une telle situation. Donc il va falloir que les juges et les membres de la commission électorale puissent créer des règles pour voir comment assurer une participation de Diomaye Faye à la campagne électorale, parce qu'ils doivent respecter les règles d'égalité et d'équité entre les candidats. Peut-être qu'il va certainement demander une liberté provisoire. En tout cas, ils doivent trouver une solution à ça. La deuxième caractéristique de cette élection, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal où on a 20 candidats. Malgré le filtre qu'on avait institué, le parrainage, qui était censé freiner l'ardeur des Sénégalais pour qu'il n'y ait pas de candidature fantaisiste. Donc, ça montre que le parrainage présente des limites. Troisième élément, c'est que parmi ces 20 candidats, il y a bon nombre qui ne connaissent même pas l'État, qui n'ont jamais géré une collectivité territoriale, une mairie ou autre, et qui n'en sont même pas des fonctionnaires. On a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, on a des consultants internationaux et autres qui participent pour la première fois à l'élection présidentielle. On peut se retrouver dans une situation où quelqu'un qui n'a jamais dirigé une structure étatique se retrouve à la tête de l'État sénégalais. Ça, c'est également une des surprises de cette élection particulière. Et je dirais en dernier lieu que c'est l'élection présidentielle au Sénégal où le président sortant et le leader de l'opposition le plus populaire ne participe pas à l'élection.
C'était l'analyste Ibrahima Khan du bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Cameroun, l'introduction du vaccin contre le paludisme est à l'épreuve de la désinformation. Le vaccin RTSS contre la malaria est officiellement introduit ce lundi dans le calendrier vaccinal du pays. Le gouvernement cible les enfants âgés de 6 mois au moins pour se faire administrer la première dose. 42 districts de santé ont été retenus par le programme élargi de vaccination de Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
L'introduction du vaccin contre le paludisme concerne 411 aires de santé du Cameroun. Les enfants âgés de 6 mois sont ciblés pour la prise de la première dose. C'est dans les régions de l'extrême nord et de l'est que l'on dénombre le plus grand nombre de districts où le vaccin sera introduit. Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique.
Sur les 42 districts qui ont été choisis, c'est sur la base, n'est-ce pas, du fardeau du paludisme. Le Cameroun fait partie des 11 pays qui ont encore un fardeau assez lourd en ce qui concerne la mortalité due, n'est-ce pas, au paludisme. Et nous perdons beaucoup de nos compatriotes, surtout des nouveau-nés qui repartent du fait de cette pathologie-là.
Seulement, une sorte de méfiance perdure au sein de l'opinion dans certaines localités. C'est le cas de ces deux parents qui ont requis l'anonymat.
Je ne vais pas permettre qu'on vaccine. Que mon enfant développe autre chose derrière ce vaccin.
Je ne serais pas prêt à m'engager maintenant. Si vraiment, sauf et seulement si tout est clarifié. Mais il y a eu trop de rumeurs qui ont couru du fait qu'il y a beaucoup de vaccins qu'on envoie en Afrique pour contaminer nos enfants. Donc ce qui fait que ça nous rend prudents.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a formé une quarantaine de personnes du programme élargi de vaccination à la gestion de la désinformation et de la circulation des rumeurs sur le vaccin RTSS. Juliette Aini, représentante par intérim de l'UNICEF au Cameroun.
C'est pour protéger les enfants les plus vulnérables. Donc, on vise essentiellement les enfants de 6 à 24 mois dans le pays.
Plus de 300 000 doses de vaccins contre le paludisme ont été réceptionnées en novembre dernier. D'après les experts, ce vaccin développé en Grande-Bretagne réduit l'anémie paludiste sévère de 101% et le besoin de transfusion sanguine de 29%. Christian Denis Macquer, au commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun.
L'enjeu principal, c'est avec les autres outils, comme les moustiquaires, nous vont contribuer à sauver les milliards de vies.
L'Organisation mondiale pour la santé, à travers son représentant, interpelle la communauté. Le programme élargi de vaccination espère renforcer la confiance des parents par la communication sociale pour un changement de comportement sur les rumeurs concernant le vaccin contre le paludisme. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Alors que la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas, une combinaison d'attaques régionales et de déclarations controversées au cours du week-end a ravivé l'environnement déjà tendu au Moyen-Orient. Véronica Balderas Iglesias de la VOA nous en dit plus. Le récit est de Alexandrine Holognon.
Les tensions au Moyen-Orient s'exacerbent après qu'une frappe à Damas a tué 5 commandants des gardiens de la révolution iranienne samedi. Le président iranien Ibrahim Raisi a blâmé Israël et promis des représailles. L'État hébreu n'a pas revendiqué la responsabilité de l'attaque et continue de se concentrer sur les cibles du Hamas à Gaza. Il réagit ainsi à une attaque lancée par le Hamas en octobre. Depuis le début de la guerre, les États-Unis, fervents défenseurs d'Israël, ont également vu leur présence militaire au Moyen-Orient attaquée des dizaines de fois. Samedi, c'est leur base aérienne d'Al-Assad en Irak qui a été visée. Le conseiller adjoint à la sécurité nationale John Feiner a commenté la question lors d'une interview dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
Il s'agissait d'une attaque très sérieuse utilisant la capacité de missiles balistiques qui constitue une véritable menace pour l'habileté des forces américaines. Et les États-Unis ont démontré dans le passé, lorsque ces attaques ont lieu en Irak et en Syrie, que nous allons répondre quand nous jugerons nécessaire pour dissuader et tenir responsables ces groupes qui continuent de nous attaquer.
Alors que les autorités sanitaires de Gaza font état de plus de 25 000 morts à ce jour, les États-Unis ne relâchent pas leur pression sur Israël pour qu'il protège les civils et permette l'acheminement d'une aide humanitaire supplémentaire.
Ils ont annoncé ces derniers jours qu'ils allaient autoriser la livraison de farine dans le port israélien d'Ashdod, puis dans la bande de Gaza. Ce sont des mesures modestes mais importantes, mais elles ne sont pas non plus suffisantes.
Dans un contexte de pénurie alimentaire, des volontaires ont distribué du pain aux Palestiniens déplacés à Rafah. La situation est cependant insoutenable, a averti le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors du 19e sommet du mouvement des non-alignés qui s'est tenu ce week-end à Kampala, en Ouganda.
Les gens meurent non seulement sous les bombes et les balles, mais aussi à cause du manque de nourriture et d'eau potable, des hôpitaux sans électricité et sans médicaments, et des voyages épuisants vers des parcelles de terre de plus en plus petites pour échapper au combat. Cela doit cesser.
Mais même s'il fait face à la pression intérieure des parents des otages israéliens, il doit conclure un accord avec le Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est exprimé samedi, réitérant son vœu de détruire le Hamas et soulignant la nécessité de conserver le rôle de la sécurité à Gaza après la guerre.
L'État d'Israël doit exercer un contrôle sécuritaire sur l'ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain. C'est une condition nécessaire. Et si elle entre en conflit avec l'idée de souveraineté palestinienne, que faire?
Ces remarques remettent en question la solution à deux États que les États-Unis et d'autres parties soutiennent depuis des années en tant que solution permanente au conflit.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le New Hampshire, petit État du Nord-Est, organise ses primaires demain mardi. Cette primaire intervient deux jours après le désistement du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a mis fin à sa campagne, laissant en lice deux candidats républicains. Caroline Presutti de VOA explique donc les enjeux de cette deuxième primaire. Le récit est de Michel Joseph.
Il s'agit de la première primaire après les caucus de l'Iowa et le président sortant Joe Biden ne figure pas sur le bulletin de vote. Une décision que certains dirigeants démocrates considèrent comme un faux départ, mais il faudra faire avec. L'ancienne présidente du Parti démocrate du New Hampshire, Kathy Sullivan.
Les gens ont dit que nous allions mettre cela de côté et que nous allions soutenir Joe Biden parce que nous savons tous que Donald Trump sera le candidat et que la chose la plus importante que nous puissions faire pour sauver la démocratie est d'arrêter Donald Trump.
Ray Buckley préside le Parti démocrate du New Hampshire, mais mardi, Joe Biden n'obtiendra pas son vote. Il a déjà voté pour des présidents démocrates en exercice par le passé, mais cette fois-ci...
Depuis mon élection en tant que président, j'ai inscrit l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, à chaque fois pour montrer que je suis totalement impartial. Nous étions en état de choc et abasourdis.
Le Comité national démocrate a rétrogradé le New Hampshire de sa place historique de premier État primaire au profit de la Caroline du Sud, où la population africaine-américaine avait largement contribué à la victoire de Biden. Furieux, les responsables du parti de l'État ont tout de même programmé la primaire et les partisans de Joe Biden ont lancé une campagne d'inscription sur les listes électorales. Du côté républicain, c'est un autre type de drame. Par un vent de moins 10 degrés Celsius, voici une longue file d'attente. Des personnes vêtues de parkas tremblotent de froid et se serrent les unes contre les autres dans une file d'attente qui s'étend autour du pâté de maison. Le rassemblement de Donald Trump ne commence que dans 4 heures.
Combien de guerres avons-nous eues quand il était président? Tout le monde était heureux. Tout le monde gagnait de l'argent.
L'ancien président Donald Trump attire les foules et recueille un peu plus de 50% des suffrages des électeurs du New Hampshire. L'ancienne ambassadrice des Nations Unies, Nikki Haley, est à 35% d'après un sondage du Boston Globe. Denise Montminy, électrice du New Hampshire.
Elle a besoin de m'influencer, donc je suis ouverte à tout ce qu'elle a à dire.
Isaac Geer, électeur indépendant, est ici pour décider si Haley obtiendra son vote plutôt que Trump. Beaucoup de ceux qui font la queue pour voir Haley sont des indépendants ou des démocrates qui peuvent voter sur un bulletin républicain ici.
J'aimerais entendre un peu moins de rhétorique belliciste de sa part en ce qui concerne sa position sur l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien.
Les analystes estiment que les républicains du New Hampshire, qui sont des conservateurs intéressés par la réduction des impôts et du gouvernement, pourrait être la dernière chance de Mme Haley d'arrêter M. Trump. Mardi soir, nous verrons si le New Hampshire pourra encore nous réserver des surprises.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Au micro, Mohamedou Koumfa. Et s'y va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, notre site internet, c'est voafrique.com. Au revoir.